le déconfinement n'est pas encore tout à fait acté pour Renard Pince, et il ne le sera pas pour un moment. Les nouvelles sont mitigées, on va dire, puisqu'on n'a toujours pas le droit d'ouvrir le lieu. Donc on continue à être un petit peu confiné à la maison, à télétravailler. Et puis les deux derniers mois ont effectivement été un peu difficiles, puisqu'on n'a pas... On n'a pas pu se voir avec l'équipe, on a travaillé sur des reports, des maintiens qui ont fini par être annulés, et les reports, on ne sait pas non plus s'ils vont pouvoir être maintenus, même à l'automne. Donc voilà, on a fini par se réorganiser sur d'autres sujets, des sujets de fond, et puis surtout, on a beaucoup fait de visio pour garder le contact et rester connecté.
On en reparlera des projets du run, mais là, pour l'instant, là, vous avez fait le choix de maintenir le cachet des artistes qui devait se produire là, sur la période.
C'est ça.
C'est un choix fort, quand même.
Oui, plutôt. En fait, on s'est beaucoup posé des questions pendant toute la première période du confinement. On se demandait ce à quoi on allait avoir droit, en fait, comme soutien, comme aide, si les subventions allaient être maintenues, si on allait pouvoir mettre en place les actions prévues à partir, par exemple, du mois de mai ou du mois de juin. Enfin, voilà, on ne savait pas. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on perdait énormément de temps et d'énergie à essayer de comprendre ce à quoi on avait le droit, ce qui était possible ou non. Et une fois qu'on a eu un peu plus de clarté sur les sujets, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on se prenne en main nous-mêmes et qu'on adopte une posture forte. Et la posture, c'était de dire qu'il y a des personnes qui allaient être en grande difficulté et qu'il fallait les soutenir avec à la hauteur de nos moyens, et que le minimum, c'était de payer tout le monde sur les dates annulées, ou même sur les dates reportées d'ailleurs, sachant qu'on a fait un plan budgétaire et qu'on se rendait compte que, a priori, ça nous mettait un peu en difficulté, mais pas suffisamment pour pas le faire.
Ouais, donc sur court ou moyen terme, Rapace, l'association qui s'occupe du run, ne sera pas mise en péril.
Elle ne le sera pas dans la mesure où les subventions, on a eu l'assurance de nos partenaires, vont être maintenues. Donc ça, c'est déjà très positif et ça permet de payer une bonne partie des salariés et puis des charges fixes. Après, si le confinement, l'interdiction des concerts à la rentrée et du bar également venait à être prolongé, ça sera pas la même situation. On risque d'être en difficulté bien plus importante. Il va falloir trouver les endroits où faire des économies. Mais on va pas avoir beaucoup d'endroits où faire des économies si de toute façon on n'a pas d'activité.
Plus largement au niveau national. Ta connaissance de structures pour qui c'est déjà hyper complexe à gérer.
Alors pour les SMAC de manière générale, la situation n'est pas trop complexe parce qu'on est quand même majoritairement financé. En tout cas, les financements permettent de payer une bonne partie des charges fixes. C'est pas le cas de tous les lieux de musique actuels parce que certains ont une activité, une logique économique, un modèle économique qui repose aussi beaucoup sur des recettes propres, de billetterie, de bars, de restaurants. Et donc nous, voilà, ça va. Enfin, nous, les salles de concert, c'est pas encore trop problématique, en tout cas celles qui sont subventionnées. Toutes celles qui ne le sont pas et tous les acteurs qui gravitent autour du spectacle vivant, enfin des salles de concert, pour eux, c'est vraiment très très difficile. Les producteurs, les artistes, évidemment, les intermittents techniciens, mais aussi ceux qui diffusent des affiches, par exemple, ou tous les journaux qui sont spécialisés, je pense, au Bikini, voilà, toutes ces structures-là ont forcément des difficultés, en fait, dans cette période, puisque leur modèle économique repose sur le fait qu'il y a des concerts. voilà. Après, bon, il y a eu des aides. Il y a des aides qui sont sorties au niveau national, des aides aux entreprises ou des aides spécifiques de la part du CNM, le Centre National de la Musique. Donc, voilà, il est encore un peu tôt pour apercevoir l'ampleur des dégâts, mais il est possible que les plus petits, de toute façon, prendront le plus cher, en fait. C'est ça le problème.
Comment vous avez reçu ou interprété à Run les annonces là, du président de la République? À son discours sur le monde de la culture, ouais. Plus particulièrement sur la gestion des intermittents dans le contexte.
Le problème qu'on a dans notre pays actuellement, il me semble, c'est que on a un président qui fait des grandes annonces, plus ou moins pompeuses ou importantes, ou ça dépend des fois, mais là en l'occurrence, c'était important qu'il annonce une année blanche pour les intermittents. c'était essentiel et complètement indispensable. Le vrai problème qu'on a derrière, c'est que c'est pas parce qu'il fait des grandes annonces que c'est suivi d'effets derrière, et de notamment tous les décrets et autres textes qui permettent de mettre en application en fait ces grands principes. Et du coup, là c'est un peu la même chose pour les intermittents et l'année blanche. C'est un beau principe dont on avait besoin, dont les intermittents ont besoin. Mais par contre, pour le moment, on ne sait pas encore comment ça va être mis en place. Et dans le détail, en fait, il y a plein de petites particularités qui posent des gros soucis, en fait, et qui ne répondent pas du tout aux grandes difficultés dans lesquelles sort le secteur. Il y a un exemple tout bête, mais enfin, là, ça n'a pas à voir directement avec les intermittents, mais avec les festivals, par exemple, ils ont été annulés, ils ont été interdits. Il y a de ça quelques semaines, justement par ces annonces soit du président, soit du gouvernement, mais il n'y a pas eu de texte derrière qui entérinait l'interdiction, ce qui fait que les festivals ne pouvaient pas avoir de base juridique pour annuler leurs événements et donc faire fonctionner les assurances et tout un tas d'autres choses. Donc ça, c'est des choses, par exemple, qui sont très 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 compliquées pour les structures comme les nôtres qui avons besoin d'éléments tangibles pour pouvoir annuler les choses, quoi. Donc ça a été fait là, mais genre un mois et demi après, voire même plus après les annonces, quoi.
Dans ce contexte là où il y a des infos qui arrivent et qui sont pas forcément confirmées, comment on fait après sur le terrain pour quand même continuer à avancer sur le projet associatif d'une structure? Comment vous, par exemple, à Run, vous avez avancé pendant le confinement?
Alors, nous, on s'est rapidement mis sur l'idée de faire des newsletters bi-hebdomadaires, donc tous les mardis et les vendredis, on envoie des newsletters à tous ceux qui le souhaitent. Et ces newsletters, elles racontent qui nous sommes, en fait, même en dehors de l'activité qu'on ne peut pas assurer en ce moment. Donc on partage des recettes, on partage des photos, du lieu, des activités qui peuvent avoir lieu quand même, comme le marché, mais aussi des activités des artistes qu'on soutient, puisque ils n'ont pas arrêté de créer pendant le confinement, ils ont produit des vidéos, des nouveaux titres, donc on a partagé un peu tout ça. Donc ça, c'était le truc le plus visible. Mais en souterrain, on va dire, on s'est aussi vachement organisé en asso pour se voir en visioconférence. Et par exemple, tous les lundis, on a un conseil d'administration depuis quasiment le début du confinement, et ça continue. Et tous les mercredis, on a une réunion d'équipe où on réfléchit tous ensemble à ce qu'on veut faire, comment on peut le faire, à ce qu'on peut faire en termes de travail de fond. On est en train de refaire le site internet de Renartin, par exemple. On profite entre guillemets de ce moment un peu bizarre pour faire d'autres choses. Et puis on a aussi beaucoup bossé sur le projet du hameau, où là on est sur de la conception, donc en fait on peut se permettre de concevoir en étant confiné, donc c'est ce qu'on fait. Donc les choses avancent quand même, parfois on se demande un peu pourquoi on travaille, puisque d'habitude on a quand même des temps chouettes d'échange, de partage avec les publics, les artistes, tout ça, mais bon, on tient le coup.
Ouais, parce que la vie associative a déjà repris, même peut-être à distance, quoi.
Elle s'est jamais arrêtée complètement. Effectivement. Elle s'est maintenue surtout avec les administrateurs de l'association. Avec les bénévoles, on a partagé un petit peu par mail, mais ce n'est pas évident. Il y a une vraie envie de rencontre, en fait. Et c'est ça qui nous relie au quotidien. C'est de nous voir, d'échanger, d'être dans l'informel. Et les réunions, c'est forcément toujours un peu formel. Les échanges de mails aussi. Du coup, il s'est passé assez peu de choses avec les bénévoles, on va dire, d'action, d'habitude, puisqu'il n'y a pas d'action. On a fait une playlist participative, ce genre de choses. Mais ils envoient des recettes aussi. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Mais on espère pouvoir relancer quelques trucs cet été, quoi.
Bon, tu parles de recettes. La transition est magnifique. Elle est portée sur un plateau. Il faut qu'on parle du projet d'éco-restaurant. Il en est où, ce projet-là?
Eh ben, il avance pas mal. On travaille avec l'Université des sciences et des pratiques gastronomiques, en la personne de Xavier Hamon, qui connaît pas mal Renard Pince, et avec qui on travaille du coup sur l'écriture du projet, en fait, sur la conception d'un projet de restaurant qui ne soit pas un restaurant lambda, qui soit un restaurant avec une démarche éthique, responsable, écologique, enfin voilà, c'est un peu des grands mots qu'on entend partout, mais on commence à décliner en fait.
Parce que ça veut dire que sur un éco-restaurant, c'est pas forcément que des grands mots, c'est-à-dire que vous allez intervenir sur tout ce qui est gaspillage alimentaire, énergie aussi, parce que c'est
énergie.
Ça coûte beaucoup.
Ouais ouais, carrément. C'est l'objectif, c'était effectivement d'avoir un restaurant, déjà qu'il soit un restaurant de proximité, mais à tout point de vue, que ce soit pour les produits qu'on proposerait, que ce soit pour le public également, et puis qu'il soit économique en énergie. Donc il y a un consortium qui s'appelle le Low-Tech Lab dans lequel on veut participer pour pouvoir réfléchir à une cuisine qui soit basse consommation d'énergie. On veut aussi que ce soit une cuisine éthique par rapport aux salariés qui travailleront dans cette boutique. Au niveau des propositions culinaires également, avoir quelque chose qui soit en conscience, faire des choses en conscience avec une démarche écologique, une démarche responsable. Associer l'idée du bon, du beau, du responsable, quoi. Donc, on travaille là-dessus avec l'université. Et on a eu une réunion, justement, hier soir, où on pose un certain nombre de choses, une charte, justement, qui permet de poser toutes nos valeurs. Et puis des idées de menu, etc., également. Et en parallèle, le fait est que pour le moment, on a un bâtiment, mais il n'est pas du tout utilisable en restaurant. On a des gros travaux à faire. Donc, on a lancé un appel à architectes aussi pour faire les travaux. Donc on fait un peu tout ça en ce moment. On commence à avoir pas mal de retours des architectes là, qui m'ont proposé des missions, quoi. Donc, petit à petit, on avance.
Le calendrier, ce serait quoi ? Ce serait une ouverture en 2022 ?
Dans l'idéal, oui. Alors le problème, c'est que on n'a pas d'argent pour le moment. Donc, on est en train de travailler à la conception du projet en essayant d'être le plus abouti en fait, d'être le plus précis avec, comme je vous disais, même jusqu'aux propositions de menu et d'ouverture, etc. Pour pouvoir toucher en fait après que ce soit des partenaires publics ou des mécènes. Ce qui va nous demander le plus de temps, c'est de trouver les moyens financiers pour monter ce projet. Parce que là, d'ici mi-juillet, en vrai, on aurait déjà un projet joliment bouclé et pour lequel il ne resterait plus qu'à faire des travaux et puis aller chercher les personnes compétentes pour le mettre en œuvre. c'est un peu ça l'objectif, c'est de créer ce beau projet et de donner envie à des gens de le financer pour le mettre en œuvre. Parce qu'il y a quand même quelques centaines de milliers d'euros d'investissement et de travaux.
Si pour l'instant on parle concert raisonnablement, si on voit un concert à Rennes, vous espérez quoi, ce serait possible début septembre, vous pensez ?
On espère deux choses. On est plein d'espoir, mais l'espoir il est un petit peu mis à mal en ce moment, donc on espère d'abord reprendre une saison relativement normale à l'automne. Mais plus ça va, plus cet espoir s'éloigne. Par contre, ce qu'on espère, c'est pouvoir proposer des choses en très petit format et en extérieur pendant l'été, en fait. Dès qu'on a l'autorisation de rouvrir le bar, l'activité du bar, on envisage pouvoir mettre en place un système qui nous permettrait de faire des petites choses en extérieur, par exemple autour du marché bio. Il y a un marché, pourquoi pas avoir un petit duo qui jouerait pendant le marché ou après le marché. Voilà, on envisage éventuellement faire ce genre de choses cet été, si début juin, les bars sont autorisés à ouvrir dans certaines conditions. Mais on attend de voir un peu ce à quoi on aura le droit. Et on trouvera, de toute façon, on ne se fait pas d'inquiétude pour le fait de trouver des bonnes idées qui respecteront les gestes barrières et éviteront de mettre les gens en danger.